J'ai regardé la dictée de Pivot, là. La finale des Liquador. Ah, ça fait du bien. La voilà la France que j'aime. Celle où j'ai grandi. Celle de l'orthographe. Celle où les Français sont blancs et les bougnoules et les nègres en Afrique. La France de la dictée. La bonne France d'antan. La France du français. C'est ça la France des Français. C'est la France du français. Ça nous change de la racaille des banlieues qui brûlent les bagnoles, volent dans les supermarchés, et ils savent même pas causer français. Alors l'écrire, je te dis pas. Et ça m'a amusé d'imaginer qu'on fasse faire la dictée au Blackbeard. Ils auraient eu leur faim, là. Je l'aurais pas ramené, je te dis. Et puis je concoctais dans ma tête un plan d'élimination des immigrés par la dictée, à proposer à Sarkozy. Tu vois, jusqu'à 5 fautes, bon, on les garde, ils peuvent aller à l'école. Et au-dessus de 10, reconduction à la frontière. Puis après, il y a eu les récompenses. Alors, la championne junior, 17 ans, terminale S, Blandine, un prénom bien français. Il y a Blanc dans Blandine, quoi. Puis ils passent tous les champions, tout ça. Des gens bien, informaticiens, tout. Et qu'est-ce qui arrive pas? Le Dicodor des Dicodor, le champion des champions, Karim Andréis Kéroui, 36 ans, prof de français. Le mec, zéro faute à la dictée, zéro faute à toutes les dictées de sélection. Mec qui prétend savoir mieux connaître ma langue que moi, quoi. Qui a fait 57 fautes et qui est français de souche. Eh bien, je dis, c'est truqué, ça. C'est truqué, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un bougnoule, il connaisse mieux ma langue que moi, merde.
Allô, bonjour. J'ai appris hier sur France Inter qu'il y avait un tiers des sans-abri, enfin des SDF, qui avaient un emploi. Alors ça, je ne le savais pas, je suis assez atterrée. Et je voulais dire que dans la belle ville d'Amiens de M. de Robien, il y a des logements de fonction vides. Voilà, cherchez l'erreur. Au revoir.
Bonjour, c'est Axel Lejeune de Boulogne-sur-Mer au téléphone. J'avais déjà laissé plusieurs messages sur votre répondeur par rapport à la situation des migrants à Calais. Et puis là, l'hiver s'annonce rude et puis il y a toujours 400 migrants à Calais. Vraiment, 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 ce serait super que l'un d'entre vous vienne faire un reportage à Calais. Donc voilà, moi je veux vraiment bien être le relais de votre reportage, si vous voulez que je vous guide, que je vous présente les bénévoles, les migrants, enfin bon voilà, tout ce qui est fait. Donc surtout n'hésitez pas à appeler et voilà.
Bien, je viens d'écouter l'émission Là-bas si j'y suis, on est vendredi, sur le thème de la décroissance. Et le dernier chapitre sur le développement durable comme étant une escroquerie m'a beaucoup plu, tout simplement parce que je travaille pour une association de protection de la nature et de l'environnement et je suis chargé de parler du développement durable. Et bien quelque part, ça me gêne beaucoup de faire de la pub pour une notion qui, j'estime, est tout à fait un sacré foutage de gueule, en fait, bien politiquement correct. Donc j'étais très très heureux d'avoir les réactions, disons, retrouver un petit peu ce que moi je ressens au jour le jour. Ça m'a bien fait plaisir. Voilà, je salue tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis et continuons le combat. Ce n'est pas fini, malheureusement. Merci.
Salut Daniel, c'est Pierre Dumont qui téléphone pour le collectif Antipub 72. Et en fait, hier, on est passé devant un tribunal de police, on était quatre. Et en fait, on passait pour une action de barbouillage de panneaux 4x3, donc des panneaux assez gigantesques qu'on a barbouillés au blanc d'Espagne. Donc c'est une craie blanche qui s'en va à la moindre pluie. Et donc là, on risque 40 heures de travaux d'intérêt généraux. Et bon, c'était un peu le premier procès de la déobéissance civile anti-pub qu'on a revendiqué collectivement. Et donc quand le tribunal a demandé d'autres noms, parce qu'on était simplement quatre à la barre, il y a une dizaine de mains qui se sont levées dans le tribunal, donc c'était un moment assez fort pour revendiquer aussi cette action et la co-responsabilité de cette action. Donc voilà, le combat anti-pub continue, et sur Paris, le collectif des déboulonneurs essaye aussi de justement mener le combat anti-pub devant les tribunaux pour avoir une tribune et pour pouvoir exprimer ce combat. Bon, ben voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, Daniel, et puis à bientôt et merci pour ton émission. Salut.
Et ben voilà un auditeur qui est dans la majorité. On le croirait pas, mais si. Selon une étude de la Sofres qui a été publiée le 20 novembre, ces jours derniers, dans le journal du dimanche, eh bien les publiphobes en France, les publiphobes sont plus nombreux que les publiphiles. 47% de publiphobes contre 33% de publiphiles. C'est pas mal, hein, d'évoquer ça alors que c'était la journée sans achat, samedi. Je sais pas si ça a été un très grand succès, parce qu'effectivement vous êtes nombreux à faire remarquer que c'est tombé le même jour que les opérations de la banque alimentaire. Alors évidemment, ça s'est peut-être un peu court-circuité, mais l'intention était pas si bête. Sachant que le budget mondial de la pub, vous savez à quoi correspond le budget mondial de la pub? Ben, ça tourne autour de 500 milliards de dollars, et c'est le deuxième budget mondial, le premier budget mondial étant celui de budget militaire mondial, si on prend les choses mondialement. Voilà. Donc, on peut se permettre peut-être de passer un petit coup de blanc d'Espagne sur une affiche. On se permet, ben non, c'est interdit. On vient de nous le rappeler. Aujourd'hui, on va passer cette heure avec l'équipe du Monde Diplomatique. C'est vraiment, alors là, un secret, puisque le numéro n'est pas encore paru, et on va dévoiler un certain nombre d'articles qui seront dans le numéro à paraître jeudi ou vendredi, je crois, et aussi des articles qui n'y sont pas, comme d'habitude, une conversation à bâton rompu avec Serge Halimi, Maurice Lemoine, Ignacio Ramonet et Bernard Cassen. On va parler d'un certain nombre de sujets, et il y a un nombre de sujets dont on ne parlera pas, sans doute faute de temps. Le long papier de Laurent Bonelli, du sociologue Laurent Bonelli, sur les raisons de la colère. Vous vous doutez bien de quelle colère il s'agit. Un papier passionnant sur Paul Nizan, un intellectuel engagé comme on n'en fait plus. L'OMC, on va en parler avec Bernard Cassen. Un petit papier court sur les glamour speakers. Glamour speaker, est-ce que je suis un glamour speaker? Ça, c'est une question. Ça vous fera rigoler, ça, je pense, ce petit article. Et puis d'autres papiers, Jacques Testard, qui entre autres parle des OGM, mais pas seulement, et du progrès. Et puis Philippe Person, qui donne un article sur contre la consommation culturelle, qui part en guerre contre la consommation culturelle, et qui nous fait regretter le temps béni de la Cinémathèque. Voilà, tout ça c'est dans le Monde Diplomatique, on en parle dans 7h jusqu'à 18h dans la basse UGC. Auparavant, autre message sur le répondeur de la basse UGC au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Evelyne de Langourlet. Donc je rappelle pour le repère de Ploubalet, pour donc dire que la prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre à 20h. Et que, ben voilà, donc Ploubalet, c'est entre Saint-Malo, Dinan, Dinard. Il y a déjà eu une première rencontre, on était une vingtaine et c'était vraiment, vraiment bien. Donc ben voilà, si d'autres gens veulent se joindre à nous, ça serait très sympa. Donc je rappelle, hein, le mardi 29 novembre à 20h au café-bar Le Penalty à Ploubalet. Voilà, et ça sera tous les derniers mardis de chaque mois. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec Le Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Bernard Cassen, à Hong Kong va se tenir début décembre la conférence ministérielle de l'OMC.
C'est vers la mi-décembre, du 13 au 18 décembre.
Alors, 10 ans d'OMC,
oui.
Le bilan.
Le bilan, ben écoutez, justement,
globalement,
le bilan, l'OMC refuse de le faire. C'est ce que beaucoup de gens demandent, c'est ce que les altermondialistes demandent, c'est ce que tous ceux qui s'opposent aux libéralisations demandent. Ils disent, en gros, faisons d'abord un bilan de 10 ans de libéralisation, on va voir si ça, les résultats sont probants ou pas. Et en fonction de cela, eh bien, on verra s'il faut continuer ou pas. Évidemment, l'OMC se refuse catégoriquement à ce type de bilan contradictoire, de même que les différents gouvernements. Alors évidemment, le bilan que nous faisons au monde diplomatique, il est extrêmement négatif. Les 10 ans de libéralisation n'ont nullement conduit à une amélioration de la situation de la majorité des peuples. Il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation du volume du commerce et l'élimination de la pauvreté, contrairement à ce que l'on veut nous faire avaler. Bien au contraire. Alors, à Hong Kong, va avoir lieu un énorme marchandage, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, structurellement. Il y a le grand dossier agricole, il y a le dossier de l'accès au marché pour les produits industriels du Nord sur les marchés du Sud, il y a le dossier sur la propriété intellectuelle, et puis il y a également le dossier sur les services. Alors tout ceci est un peu compliqué, mais disons pour résumer les choses, que le Nord dit, on va lâcher sur l'agriculture, on va supprimer un peu de subventions à l'exportation, mais en échange, vous allez ouvrir tout grand vos marchés à nos produits. Évidemment, c'est totalement scandaleux et inacceptable. Voilà un peu les éléments. Alors, si vous lâchez sur un dossier, on va lâcher sur les autres. Mais si vous lâchez pas sur l'agriculture, on va pas lâcher.
Et où en est l'opposition à la politique de l'OMC dans le monde, parce qu'on dit voilà, l'OMC détruit des destructions sociales, environnementales produites par ses politiques, mais où en est l'opposition à ces politiques?
Alors
c'est pas toujours sensible en France, on s'en rend pas compte vu d'ici.
Alors il y a différents types d'opposition. Il y a des gouvernements qui s'opposent à tel ou tel aspect. Par exemple, les producteurs de coton africains qui sont détruits par les subventions au coton américain constituent un front et ne veulent pas lâcher. Ils veulent obtenir la fin des subventions agricoles américaines au coton. Alors on peut dire qu'ils sont contre un fragment de l'OMC. Vous avez également un peu partout, surtout en Europe d'ailleurs, une réaction très hostile à l'accord général sur le commerce des services, qui aggraverait
la GCS,
qui aggraverait encore davantage la situation européenne que nous promet la directive Bolkestein, qui est d'ailleurs déjà en partie appliquée, compte tenu des énormes différentiels de coûts de main-d'œuvre entre, par exemple, l'Allemagne et puis l'Estonie, par exemple. Donc il y a déjà un dumping social interne à l'Union européenne qui ne peut qu'être aggravé par un super dumping social mondial. Et il y a de très nombreuses collectivités en France, mais pas seulement en France, en Belgique, en Allemagne, etc., qui se sont déclarées zones libres de la GCS. Alors évidemment, c'est une posture politique. Légalement, ça tient pas très bien la route. Mais aux États-Unis également, il y a un mouvement extrêmement fort de pratiquement tous les États américains ont proposé des législations et parfois les ont fait adopter qui subordonnent par exemple des subventions publiques au recours à des fabricants locaux. Donc la résistance à la GCS, elle est très forte contre les délocalisations et contre l'exploitation de la main-d'œuvre. Elle est très forte aux États-Unis même. Donc il y a un mouvement qui se dessine. On a vu à Mar del Plata récemment en Argentine où avait lieu le sommet des Amériques qui visait à impulser, à remettre en marche le grand accord scélérat zone de libre-échange des Amériques, qu'on appelle ALCA.
L'accord scélérat.
Oui, on peut l'appeler comme ça, je crois. Le S, ça serait de la GCS, ça pourrait être aussi scélérat. Et là, on a vu que les États membres du Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, et surtout le Venezuela.
Ah, ça faisait longtemps.
Ben oui, mais là, il faut bien reconnaître les choses, c'est que si Chavez n'avait pas dit non, non et non, les autres gouvernements du Mercosur, qui étaient quand même un petit peu branlants, un petit peu tièdes, sans doute n'auraient pas résisté aux pressions américaines. Et là, pour la première fois, on a vu qu'il n'y avait pas unanimité, or ça requiert le consensus, et que les États qui représentent plus de 50% de la production américaine ont dit à Bush non, on ne veut pas continuer à négocier l'ALCA tant que vous n'aurez pas supprimé les subventions agricoles, ce qui permet de renvoyer ça au calendrier. Donc là, c'est un échec flagrant du libre-échange. Et puis on a vu également à l'UNESCO, au mois d'octobre, d'ailleurs nous en avions parlé dans notre numéro d'octobre, comment la quasi-totalité des États, avec deux exceptions, Israël et les États-Unis, ont mis en place une convention pour la promotion de la diversité culturelle, qui établit une sorte de co-tutelle sur les échanges de produits culturels entre l'OMC et cette convention. Alors, ce n'est pas satisfaisant. Il aurait fallu que l'OMC soit complètement éliminé du jeu. Ce n'est pas le cas. Mais pour la première fois, il est admis dans une enceinte internationale et par une convention que les échanges culturels ne sont pas des échanges comme les autres. Donc, le libre-échange subit de nombreux assauts. Et il les subit d'autant plus qu'aux États-Unis, maintenant, il y a un retour, et Serge Halimi pour en parler plus savamment que moi, il y a un retour de bâton face à l'énormité de la capacité chinoise d'exportation. Il y a quand même 200 milliards de dollars de déficit commercial seulement avec la Chine. D'un seul coup, les chantres du libre-échange découvrent que le libre-échange, c'est finalement pas bon du tout, et se prononcent contre. Donc, le mouvement intellectuel est de plus en plus hostile au libre-échange. Des collectivités de plus en plus nombreuses y résistent, mais ça a peine, pour l'instant, à se traduire dans les faits.
Serge Halimi.
Non, c'était juste pour préciser que ce déficit commercial avec la Chine est dû pour une large part aux exportations de multinationales américaines installées en Chine et qui profitent du taux de salaire et de l'absence de protection sociale des salariés chinois. Par exemple, l'un des principaux importateurs aux États-Unis, c'est l'entreprise Walmart, l'entreprise américaine, qui est installée un peu partout dans le monde et qui ensuite... dans le monde, sert en quelque sorte, utilise les pays étrangers comme autant de plateformes à partir desquelles envahir le territoire américain. Donc vous avez une entreprise américaine, la principale entreprise américaine, celle qui emploie le plus de salariés, qui est l'un des principaux facteurs du déséquilibre commercial que subissent les États-Unis.
Et ceci va à un tel point que même aujourd'hui les théoriciens libéraux, y compris français, et je recommande la lecture d'un ouvrage que nous citons, un ouvrage de Jean-Luc Gréaud qui s'appelle « L'avenir du capitalisme ». Jean-Luc Gréaud n'est pas n'importe qui, c'est un ancien expert du MEDEF qui explique, qui fait un réquisitoire mais implacable, je dirais à la limite presque pire que celui du diplôme, contre le libre-échange, dont il démontre que la finalité ultime du libre-échange, c'est une baisse tendancielle des salaires, c'est la déflation salariale. L'exemple des États-Unis, l'exemple de Walmart est probant. C'est vrai que Walmart est basé en Chine, fabrique des produits en Chine et les réexporte vers les États-Unis, évidemment à des prix de dumping. Jamais un ouvrier américain ne pourra faire concurrence, ou plus exactement un ouvrier chinois, en plus avec des syndicats maison, la coercition, etc., ne pourra faire être concurrent avec un ouvrier américain. Donc la logique générale du libre-échange, c'est la baisse tendanciel du salaire. C'est vrai dans l'Union européenne, avec la directive Bolkestein et d'autres dispositions du feu traité constitutionnel qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, et c'est vrai à l'échelle mondiale.
Serge Limi.
Oui, on dit que le libre-échange a pour conséquence de faire pression sur les salaires et de faire pression à la baisse. Il faut rappeler ici que c'est pas une conséquence qu'on découvre. C'est un dessein de ceux qui ont mis en place cette mécanique et qui savaient dès le départ qu'avec le libre-échange, ils pourraient justement contourner les salaires trop élevés et les protections écologiques trop nombreuses qui existaient dans les pays occidentaux. Et un certain nombre de personnes l'ont dit. Dès les années 70 ou 80, ils ont dit, grâce au libre-échange, on va pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de concessions sociales ou écologiques qu'on avait acceptées pendant les années 60. Donc c'est quand même un mécanisme qui permet la revanche sociale de ceux qui avaient été obligés d'accorder un certain nombre de concessions au moment de la puissance du mouvement ouvrier.
Bernard Cassin.
Nous avons précédé ce dossier de 4 pages sur l'OMC de quelques citations qui sont particulièrement parlantes. Il y en a peut-être une ou deux que brièvement je vais vous citer. Il y en a une, c'est du président des États-Unis, Ulysses Grant, le général vainqueur de la guerre de sécession, qui dit ceci. C'était entre 1868 et 1876. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quand même un siècle et demi. Il dit voilà. Pendant des siècles, l'Angleterre s'est appuyée sur la protection, l'a pratiquée jusqu'à ses plus extrêmes limites, et en a obtenu des résultats satisfaisants. Après deux siècles, elle a jugé commode d'adopter le libre-échange, car elle a pensé que la protection n'a plus rien à lui offrir. Eh bien, messieurs, la connaissance que j'ai de notre pays, donc les États-Unis, me conduit à penser que dans moins de 200 ans, lorsque l'Amérique aura tiré de la protection tout ce qu'elle a à offrir, elle adoptera le libre-échange. Donc, libre-échange et protectionnisme, c'est pas des théories économiques, c'est des questions de conjoncture et d'opportunité. Donc, aujourd'hui, les pays qui clament qu'il faut le faire du libre-échange, ce sont ceux qui ont été les plus protectionnistes. L'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis.
Et qui, pour certains d'entre eux, le reste, les États-Unis sont un pays particulièrement protectionniste en matière de production agricole, de textile, etc.
Et une autre citation utile, voilà ce que dit un fonctionnaire américain de l'OMC, qui est cité dans une revue. La libéralisation du commerce s'arrêtera seulement lorsque les étrangers, donc les non-américains, commenceront finalement à penser comme des Américains, à agir comme des Américains et surtout à acheter comme des Américains. Voilà un petit peu la philosophie générale du libre-échange à l'OMC, vue par ceux qui sont les patrons à l'OMC, finalement les États-Unis.
On va rester aux États-Unis avec Maurice Lemoine. Oui, Maurice Lemoine est aux États-Unis, ça peut paraître extraordinaire. Non, généralement, c'est l'Amérique latine. Mais c'est pour parler des hispaniques et des latinos aux États-Unis.
Oui, c'est les seuls que je comprends aux États-Unis avec mon anglais déplorable. Je suis bien obligé de profiter. C'est un grand reportage de Jean-François Boyer qui vient un peu en ouverture de notre dossier sur les banlieues. On sait que le dossier sur les banlieues est dû, en partie aux derniers événements dans lesquels sont impliqués les jeunes issus de l'immigration. Et donc, on a été voir un petit peu ce qui se passe avec les immigrés ou les descendants d'immigrés ou les fils d'immigrés latino-américains aux États-Unis. Ça nous paraissait une bonne manière de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un phénomène majeur, puisque 41 millions d'Américains sont d'origine latino, c'est-à-dire que 14% de la population, c'est la première minorité des États-Unis, la moitié sont nés en dehors des frontières, et 65% sont d'origine mexicaine. Alors le reportage de Boyer commence très classiquement dans les grandes plantations, l'agro-industrie de Californie, où on retrouve des Indiens, des indigènes du Mexique, de l'état de Oaxaca, le plus pauvre du Mexique, à côté du Chiapas, qui travaillent dans des conditions absolument déplorables, mais qui gagne 7 fois plus que ce qu'il pourrait gagner dans le Oaxaca mexicain. Et puis on découvre que 90% des travailleurs agricoles en Californie sont les Mexicains ou les Centra-Américains sans papier. Donc on tombe sur des problématiques qu'on connaît bien. Et paradoxalement d'ailleurs, il y a très très peu de ce qu'on appelle des déportations par les autorités. C'est-à-dire qu'on a tous en tête ce mur infâme qui a été érigé sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cela étant, une fois que les travailleurs sont dans les plantations, plus personne ne vient les ennuyer. Et là, on les fait travailler, on leur fait suer le burnous. C'est une vieille expression, mais en fait, c'est un peu ça. Alors, évidemment...
Sauf que quand on faisait suer le burnous, on donnait la peine d'y aller.
On y allait, voilà. Maintenant, ils viennent. Alors, évidemment, cette progression du nombre des latino-américains aux États-Unis a inquiété un homme qu'on connaît bien, l'homme du choc des civilisations, Huntington, qui s'inquiète de voir autant de latino-américains aux États-Unis, parce que d'après lui, et là je lis, les fondements de la culture anglo-saxonne, de la culture, anglo-protestante fondatrice sont la langue anglaise, la chrétienté, une conception anglaise de la prééminence de la loi, la responsabilité des dirigeants, le droit des individus, les valeurs protestantes de l'individualisme, l'éthique du travail et la croyance que les humains ont la capacité et le devoir de créer un paradis sur Terre. Et pour lui, les latino-américains mettent en péril tout cet ensemble, tout ce corpus qui font des anglo-saxons ce qu'ils sont. Alors ça amène, c'est intéressant le papier de Boyer, parce qu'en fait il fait un va-et-vient entre les plus pauvres des latino-américains et puis ceux qui, sans doute, comme les immigrés que nous avons aujourd'hui ici en France, ça s'intègre. Petit à petit, sont intégrés, deviennent des vrais Américains, avec y compris l'American Dream dans la tête. Alors c'est vrai que le côté le plus spectaculaire, c'est le showbiz. On connaît même ici chez nous, hein, on connaît Cheyenne, Jennifer Lopez, Ricky Martin. Bon, ça c'est le côté visible, hein, le showbiz. Mais en même temps, on voit les Latino-Américains intégrer la classe moyenne, un certain nombre d'entre eux. Et puis devenir conservateur, comme les copains, j'allais dire. Hein. C'est-à-dire que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a tendance, par exemple, à abandonner le Parti démocrate pour voter républicain. Et c'est vrai que quand on examine la relativement faible, quand même, représentation politique des latinos dans l'appareil d'État aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a 25 députés, sénateurs au Congrès, ce qui est quand même pas énorme, hein, il faut le dire, pour 41 millions de latinos. On a eu évidemment le choc de voir le maire de Los Angeles être un latino, hein, c'est un d'origine mexicaine, Antonio Villaraigusa, j'ai du mal à le prononcer. Même en espagnol, j'ai du mal à le prononcer, mais on est lundi matin, c'est difficile. Hein. Et puis surtout, il y a deux personnages qui peuvent retenir notre attention, Serge pourra en parler mieux que moi, c'est le ministre de la Justice, Alberto González, et puis celui du Commerce, Carlos Gutiérrez, qui est un ardent défenseur de l'ALCA dont parlait Bernard à l'instant, c'est-à-dire la vision la plus conservatrice, et y compris qui mettrait l'Amérique latine à genoux. Hein. Et quant à Alberto González, il appuie la politique de bouffe en Irak, il défend Abu Ghraib, Guantanamo, enfin tout ce qu'on veut. Donc on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir uniquement une image, j'allais dire, misérabiliste du fond des ghettos de l'immigration, mais qu'il y a évidemment une évolution. Cela étant, où l'on retrouve une problématique un peu similaire à la française, c'est quand même la sous-représentation politique. Hein, puisque en fait, sur ces 41 millions d'Américains d'origine latino-américaine, seuls 7 millions ont droit de vote. Et d'après ce qu'on peut observer actuellement, il est vraisemblable que ça ne va pas augmenter d'une manière considérable, parce que la nature de la structure de l'économie américaine ne va plus permettre, en tout cas en ce moment beaucoup plus difficilement, l'accès à la classe moyenne, dans la mesure où elle est basée essentiellement sur les services, l'économie de services qui prime la connaissance, et que donc elle va laisser, et elle laisse en ce moment des marges entières, des masses entières de latino-américains dans les conditions les plus difficiles, et là on retrouve une problématique qu'on connaît bien dans nos banlieues. Vienes, te miro, si me traes bronca me loco de a tiro, me paro, te tumbo, no es tu rumbo, y con el lingo tal vez te confundo. Shit is the attack with a 5'10", the blacks again, once again, with the cocktail pen, as I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, hope you run, otra vez, ya lo ves, and the cruise from a stress, one blacks again on the squad you don't test, sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu, that's what it's like with the pump shot through you, my manner is the miles till the punks get piled. My number one assassin fits the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente.
Serge Limi.
Juste là-dessus, il faut préciser que le portrait que Maurice Lemoine vient de faire des Latinos aux États-Unis ne fonctionne pas de la même manière dès lors qu'il s'agit des Noirs, que l'accession aux classes moyennes est plus difficile pour les Noirs parce qu'il y a des phénomènes de racisme qui persistent et qui sont particulièrement virulents. On a observé dans plusieurs villes américaines que dès lors que la proportion de Noirs dans un quartier atteignait 15 ou 20%, les Blancs quittaient le quartier. Et qu'un quartier où la proportion pouvait être de 10 blancs pour un noir, quelques années plus tard, pouvait devenir un quartier où il y avait 99% de noirs, ou 95% de noirs. Ça, c'est un phénomène.
Tout ça a été montré avec l'ouragan à Nouvelle-Orléans.
On l'a vu à cette occasion. Enfin, on l'a revu à cette occasion. Et tout ça est un phénomène qui n'existe pas pour les latinos de la même manière. J'ajoute que, au plan politique, alors que les latinos, effectivement, ont voté dans une proportion assez significative pour George Bush lors de la dernière élection, à 40%, c'est-à-dire une majorité a voté démocrate, mais près de 40% ont voté pour Bush. assez sensible à sa démagogie religieuse, à sa défense des traditions, à son combat pour la famille, contre l'avortement, contre le mariage homosexuel. Pour les Noirs, ce phénomène n'existe pas et les Noirs continuent à voter presque comme un seul homme en faveur du Parti démocrate, puisque là, la proportion est de près de 90%, y compris à l'intérieur des classes moyennes. Là, ce décrochage ne se produit pas dans le cas des Noirs.
Alors, vous consacrez dans ce numéro de décembre du Monde diplomatique, une grande partie aux banlieues, aux émeutes en banlieue. Il y a ce long papier de Laurent Bonelli. Mais je voudrais qu'on parle, puisqu'on est en train de parler des États-Unis, on parlait des problématiques, des comparaisons à faire ou non avec les États-Unis. Est-ce qu'on est dans la même situation? Quels sont les points de similarité?
Disons que lorsqu'on a vu l'explosion dans les banlieues, on pouvait se dire que ça déclencherait une espèce de prise de conscience de l'urgence sociale. Et ça, c'est l'interprétation optimiste, mais lorsqu'on pense à ce qui s'est passé aux États-Unis, on n'est pas obligé d'adopter cette interprétation optimiste. Après tout, les émeutes de Los Angeles n'ont été suivies d'aucune réorientation des dépenses publiques en faveur des pauvres, alors même qu'elles avaient lieu en pleine période électorale. Pendant cette période électorale, les candidats principaux ont parlé d'autre chose que de la situation des pauvres. On l'a vu beaucoup plus récemment après le cyclone de la Nouvelle-Orléans, où le discours presque dominant, c'était « maintenant les Américains découvrent une fois de plus qu'il y a des pauvres, qu'il y a des Noirs, etc. Ça va changer, le discours politique ne sera plus comme avant ». Et quelques semaines plus tard, on en est revenu au discours qui précédait le cyclone. Et moi, j'ai un peu redouté, en particulier en entendant Nicolas Sarkozy et quelques autres, de voir se dérouler à propos de la France une histoire que je connaissais déjà un peu aux États-Unis, celle de la fin des années 60, de Ronald Reagan, de Richard Nixon. En quelque sorte, vous avez Sarkozy, pro-américain, de droite, répressif, défenseur des intérêts les plus privilégiés de la société, et qui pourtant se présente comme le porte-parole de la majorité silencieuse, qui en a marre des désordres et qui combat les excuses sociologiques que formulent pour défendre des voyous ou la racaille les gauchistes des beaux quartiers. Tout ça, c'est vraiment ce qui a assuré le triomphe de la droite américaine dans les années 60 et au début des années 70. Donc, si on se replace un peu dans les conditions de l'époque, au début des années 60, la gauche, le progressisme, a l'air de triompher aux États-Unis. Nixon est battu par Kennedy en 60. 2 ans plus tard, il se présente pour être gouverneur de Californie. Il est battu et il annonce à la presse « C'est fini, il faudra désormais que vous trouviez une autre tête de Turc. Je renonce à la vie politique. » Nous sommes en 1962. 2 ans plus tard, vous avez Barry Goldwater, le candidat républicain, qui est balayé par Lyndon Johnson. Et on se dit « Ça y est, c'est le triomphe des démocrates, du progressisme. » Et c'est vrai que pendant quelques temps, un certain nombre de mesures progressistes seront mises en œuvre. Ça sera les lois sur les droits civiques de 64 et de 65. Et ça sera surtout le grand programme de dépenses publiques que Johnson appelle la guerre contre la pauvreté. Or, ce qu'on observe dans le cas des États-Unis, c'est que très vite, il va y avoir un retour en arrière, un backlash, un retour de bâton qui va favoriser les conservateurs. Donc la société américaine bouillonne, il y a des tas de mouvements qu'on connaît, le mouvement pacifiste, le mouvement féministe, le mouvement noir, le mouvement homosexuel, tout ça, ça bouillonne, et en même temps que ça bouillonne, ça suscite un ressentiment, et un ressentiment qui est ciblé plus précisément sur une catégorie de l'électorat populaire blanc, qui est de plus en plus mécontente des désordres. Je vous ai dit, en 64-65, c'est le triomphe du progressisme, du Parti démocrate. Dès 1966... vous avez qui se fait élire gouverneur de Californie? Un certain Ronald Reagan, qui écrase le gouverneur démocrate sortant, à la surprise générale, et qui l'écrase en fondant sa campagne sur trois angles majeurs, qui semblent percuter avec l'électorat. Premièrement, une partie de l'électorat blanc, y compris pauvre, y compris de classe moyenne, mais pas très privilégiée, est de plus en plus hostile à la mixité raciale du logement, qui a été imposé à coup de décision de Sacramento, de la capitale de la Californie. Ensuite, Ronald Reagan utilise aussi le fait que beaucoup de gens accusent les démocrates d'avoir péché par faiblesse lors des émeutes de Watts à Los Angeles en août 1965, qui avaient fait 34 morts, qui avait impliqué 50 000 personnes et qui avait vu 16 000 gardes nationaux arriver dans les quartiers. Donc vraiment une opération pratiquement de guerre civile. Et enfin, cet électorat populaire blanc est aussi mécontent de la contestation de ce que Nixon, de ce que Reagan appelle une minorité névrosée de beatniks installée à l'université de Berkeley. Parce que c'est la période du mouvement étudiant. Donc vous voyez, sur ces trois points, vous avez Reagan qui l'emporte dans un État où les démocrates étaient tout puissants, l'avaient emporté très largement quelques années plus tôt, en utilisant le ressentiment à l'encontre de l'intégration raciale, le ressentiment à l'encontre des violences, et enfin le ressentiment à l'encontre des intellectuels progressistes qui trouvent toutes les excuses à toutes les formes de violence et qui en plus ne sont pas très patriotiques au moment où il y a la guerre du Vietnam.
Et toute ressemblance avec des situations...
Voilà. Tout, exactement, est interdite. Sauf que, deux ans plus tard, que se passe-t-il ? Deux ans plus tard, 1968, donc une année extraordinaire aux États-Unis, épouvantable aussi, où se passent des tas de choses, c'est l'assassinat de Martin Luther King, c'est les émeutes dans je ne sais combien de villes américaines, mais c'est aussi l'élection de Richard Nixon à la présidence des États-Unis. Vous savez, cet homme qui avait été battu en 60, qui se retire de la vie politique en 62, six ans plus tard, il revient... candidat républicain, et il l'emporte face au vice-président Johnson, au vice-président de Johnson, Hubert Humphrey, qui est l'homme du progressisme américain, et il l'emporte en appelant les Américains à, je cite, « écouter une autre voix, une voix tranquille dans le tumulte des cris, c'est la voix de la grande majorité des Américains, les Américains oubliés, ceux qui ne crient pas, ceux qui ne manifestent pas, ils ne sont ni racistes ni malades, ils ne sont pas coupables des fléaux qui infestent notre pays. » Vous voyez, un discours qui est le discours de la majorité silencieuse. Absolument. Qui est d'ailleurs le discours que De Gaulle, et plus précisément Pompidou, emploieront au lendemain de mai 68 pour obtenir le triomphe électoral qu'on sait à l'Assemblée nationale. Donc c'est un discours qui, de plus en plus, va opposer les prolétaires et les chômeurs aux classes moyennes ou aux ouvriers, et qui est d'autant plus performant, et c'est là-dessus quand même qu'il faut insister, que les possibilités de mobilité sociale par le haut paraissent bouchées pour les ouvriers et pour les petits employés à partir de cette période, pour les salariés, et que les syndicats n'ont plus la possibilité d'empêcher la baisse du pouvoir d'achat de leurs membres et la revanche du capital. Donc vous avez une partie de l'électorat populaire qui sent que la mobilité par le haut n'est plus là, n'est plus possible, alors même qu'ils voient arriver par le bas des minorités raciales, les Noirs, mais aussi des étrangers, et qui, en quelque sorte, retournent leur colère, non pas contre ceux qui sont des forces impersonnelles du capital qui les empêchent d'accéder plus haut, mais contre ceux qui menacent de les rejoindre et de provoquer aussitôt une dégradation dans leurs conditions d'existence. En d'autres termes, ce qui est assez terrible, et ce qu'on risque de voir avec Sarkozy, avec une partie de la droite française, c'est que le poujadisme de droite, le poujadisme culturel, le poujadisme racial, le poujadisme xénophobe parfois, fait son miel des inégalités sociales que multiplie le libéralisme. Et vous avez le même qui, en quelque sorte, déclenche la machine à provoquer des inégalités, de la précarité, et qui ensuite récupère ça sous forme de, en quelque sorte, de poujadisme en disant « Vous voyez bien, c'est de plus en plus difficile pour vous, mais c'est de plus en plus difficile pour vous à cause d'eux. »
C'est ça, c'est-à-dire c'est la scène de la racaille Argenteuil. C'est-à-dire que Sarkozy n'est pas en train d'insulter toute la population. Vous êtes tous des racailles. Il y a des racailles parmi vous, mais vous êtes des braves gens, vous êtes des gens qui travaillaient, vous êtes des gens qui avaient des voitures, qui voulaient dormir, etc. Et il y a cette partie de racaille. Donc, c'est pas toute la banlieue et tous les quartiers sensibles, comme on dit, qui sont considérés comme habités par des racailles.
C'est même pas seulement ça, c'est ça, mais c'est aussi le fait que cette partie de racaille est soutenue par une élite intellectuelle détachée de la vie sociale qui passe sa vie à lui trouver des excuses. Et donc Sarkozy est en quelque sorte du côté, ou se présente comme du côté du peuple, entre guillemets, parce qu'il est à la fois du côté des petits blancs qui vivent dans des conditions d'existence de plus en plus difficiles, et il est contre les intellectuels, les professeurs, les universitaires, qui en quelque sorte... inflige des leçons de tolérance à ceux qui vivent ces conditions difficiles alors qu'eux-mêmes connaissent des existences favorisées. Et ben ça, c'est tout le discours, c'est toute l'histoire de la victoire de la droite aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Et c'est ce qui explique qu'à partir d'orientations économiques et sociales qui favorisent de manière systématique les revenus les plus élevés,
ils aient réussi à détacher quand même une partie de l'électorat populaire pour obtenir des majorités électorales. Je rappelle que lors de la dernière élection présidentielle, Bush a obtenu 85% des voix dans le comté le plus pauvre des États-Unis. Pourquoi votait-il pour lui ? Pas pour obtenir une baisse de l'impôt sur les plus-values ou la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, mais parce qu'il utilisait en permanence ce discours démagogique poujadiste, se présentant comme proche du peuple, parce qu'en quelque sorte, il exprimait les ressentiments du peuple, mais en les tournant non pas contre les élites dirigeantes, mais contre les plus pauvres et les plus exploités, les plus précaires de la société américaine. I'm gonna make you prefer. They call you mad. Boy, tired. Juste pour compléter en quelque sorte le parallèle, en 1995, l'un des théoriciens qui entourait George Bush, et qui est d'ailleurs l'auteur de sa fameuse expression sur le discours « L'axe du mal », David Frum, expliquait « Les gens sont fatigués de ce gémissement constant qu'ils entendent au sujet des pauvres. Les contribuables qui appartiennent aux classes moyennes estiment qu'ils paient toujours plus pour eux et que ceux-ci ne cessent de se comporter plus mal. » Bon, et alors ? Quelques années plus tard, nous avons Sarkozy. La vérité, c'est que depuis 40 ans, on a mis en place une stratégie erronée pour les banlieues. D'une certaine manière, plus on a consacré de moyens à la politique de la ville, moins on a obtenu de résultats. C'est donc l'idée que non seulement il faut pas dépenser parce que ça sert à rien, mais ensuite, si on dépense, on pérennise des comportements asociaux, des comportements qui ne tiennent pas compte de la nécessité d'être autonome. Et en d'autres termes, je dirais que ça tombe bien aux États-Unis comme en France, parce que ces moyens, on les réserve à d'autres usages que la lutte contre les inégalités sociales, la réduction des impôts directs par exemple. Et c'est ce qui s'est produit en France, au moment même où on discutait des soulèvements dans les quartiers, et bien l'Assemblée nationale votait la baisse des taux de l'impôt sur le revenu et la réduction sensible pour certains du prélèvement qu'ils acquittaient au titre de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur les fortunes.
Comme s'il s'agissait de démontrer que ces 5 à 6 millions de Français qui vivent dans les ZUS ne posait aucun problème, ni la bourse, ni le CAC 40, ni ce que vous venez de dire, n'ont été en rien affectés par ceux qui vivent dans une sorte de dépotoir social. On peut très bien vivre avec ça, le système marche sans aucun à-coup, sans aucun problème.
Oui, et s'il y a un problème, et ben on expliquera que le problème, c'est précisément qu'il y a trop de protection sociale, il y a trop d'intervention de l'État, il y a trop d'impôts pour les riches, il y a trop d'écoles jusqu'à 16 ans, donc on instituera l'apprentissage à partir de 14 ans pour fournir une main-d'œuvre en quelque sorte taillable et corvéable à merci à partir du plus jeune âge, aux responsables, d'une certaine manière, de la situation économique et sociale qui a débouché sur l'explosion des banlieues.
On va continuer de parler un peu des États-Unis avec Ignacio Ramonet, enfin, du président américain, George Bush, qui aurait tendance à devenir un peu torsionnaire. Enfin, on découvre qu'il serait un petit peu torsionnaire.
Oui, le président Bush, enfin, ça dépend. Parce que si c'est les autres, par exemple, qui sont, disons, cruels avec leur société, là, il leur fait la morale. Par exemple, Monsieur Bush vient de faire une tournée en Asie, il est allé en Chine. Et toute la presse, d'ailleurs, a soutenu et a encouragé Monsieur Bush à rappeler à l'ordre le président chinois sur la question des droits de l'homme. Et d'ailleurs, M. Bush l'a fait. Et seulement, la question, c'est est-ce qu'il a une autorité morale pour pouvoir faire la leçon en matière de respect des droits de l'homme à qui que ce soit. Et la réponse, bien entendu, est non. Il suffit de voir ce que nous commençons tout de même maintenant à découvrir. C'est-à-dire non seulement la question de la torture. Je vous rappelle que la question de la torture est en débat public aux États-Unis. Que le ministre de la Justice, dont a parlé tout à l'heure Maurice Lemoine, Alberto González, est un juriste texan, très ami personnel du président Bush. C'était son conseiller juridique avant d'être ministre de la Justice. Et c'est lui qui, après les attentats du 11 septembre, c'est lui qui a fait un premier mémorandum bien connu où il a dit la chose suivante, puisque le terrorisme qui a attaqué les États-Unis est une atteinte à la liberté, eh bien, il est clair que nous allons prendre des dispositions, ces dispositions étaient prises dans ce qu'on appelle la loi Patriot Act. À partir de ce moment, tenez-vous bien, les conventions de Genève devenaient anticonstitutionnelles pour les États-Unis. Et donc, par conséquent, au regard de la Constitution américaine et au regard des nouvelles lois dont les États-Unis s'étaient dotés, les conventions de Genève, qui sont les conventions qui protègent les prisonniers de guerre, et les conventions contre la torture des Nations Unies devenaient périmées, hein, parce que ces lois autorisent précisément des sortes de mesures finalement n'excluent pas des formes de torture. Et donc à partir de ce moment-là, la torture officiellement a été légalisée. Alors la question c'est: quelle torture? Jusqu'où faut-il torturer? Mais le débat est là actuellement aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la torture. Officiellement, les États-Unis sont pour la torture.
Torture sympa.
Mais ça dépend les limites de la torture. Par exemple, il ne faut pas torturer. C'est le document sur lequel le Congrès américain discute en ce moment. Il ne faut pas torturer jusqu'à, par exemple, conséquences irréversibles pour le torturer, hein, pas de conséquences irréversibles, par exemple pas la mort ou pas la perte de l'usage d'un membre ou pas, je ne sais pas, la cécité, la perte de l'usage d'un sens. Bien, mais nous sommes revenus à des positions médiévales, hein, et le débat aujourd'hui est là. D'une part, il y a une autorisation à torturer, en quelque sorte. Et comme vous savez, le vice-président Cheney est très engagé dans cette bataille, puisqu'il fait campagne officielle pour qu'on ne réduise pas, qu'on ne limite pas les dimensions de la torture qu'il faut pratiquer, en particulier en direction des personnes accusées de terrorisme. Il ne faut pas le limiter. Il faut surtout pas, par exemple, que la CIA ne puisse pas torturer les accusés de terrorisme. Je vous rappelle que, par exemple, dans cette affaire qu'on a découvert autour de Lewis Leby, vous savez, l'assistant de Cheney, qui est celui qui a révélé, pour se venger de l'ambassadeur Wilson, que son épouse, Valerie Plame, était une membre de la CIA, Leby était un des théoriciens de la torture. Et celui qui l'a remplacé, puisque Leby a dû démissionner, parce que maintenant il va en procès grâce au juge Fitzgerald, Anderson, c'est le théoricien de la torture auprès de Cheney. Donc Cheney et son principal assistant sont des théoriciens favorables à la torture. Nous parlons évidemment au XXIe siècle, hein, quand la torture a été abolie, un peu comme l'esclavage, depuis un certain temps, et en ayant démontré pourquoi. Mais par ailleurs, on a découvert aussi que donc les services du président Bush, qui se promène à travers le monde en donnant des leçons de respect des droits de l'homme, les services, et dont la CIA, avait une pratique qui est évidemment condamnée, c'est la pratique des enlèvements clandestins, c'est-à-dire la pratique de ce que les Latino-Américains ont très bien connu, la pratique de la disparition, c'est-à-dire que quelqu'un qui est soupçonné ici ou là dans un pays d'être un agent, un complice, etc., d'une organisation terroriste, peut disparaître du jour au lendemain, enlevé par des agents de la CIA, voire par des complices, et emmené dans des avions clandestins vers des lieux dont on dit maintenant, dont le nom officiel dans les documents de la CIA est le nom de sites noirs, de black sites. Et c'est des sites noirs, c'est-à-dire des prisons secrètes, où ils peuvent être torturés, évidemment, sans les limitations qu'il y a officiellement aux États-Unis, où ils peuvent être transférés vers des pays amis, bien sûr, comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme le Maroc, comme le Pakistan.
On délocalise la torture.
On délocalise la torture, où ils peuvent être torturés, là, par des agents locaux. sur la surveillance de la CIA, ce qui avait été fait avec Ben Barka d'ailleurs, puisque il est bien démontré aujourd'hui que Ben Barka a été torturé un peu sous les cons, enfin dont le corps a été dissous, comme vous savez, dans de l'acide, et qui était la pratique que la CIA utilisait en Amérique latine pour faire disparaître les corps, notamment au Guatemala où la pratique a été systématisée. Donc aujourd'hui, on peut délocaliser la torture, faire torturer par des agents locaux, etc. On découvre en parallèle que dans l'Irak officiel, l'Irak libéré, l'Irak évidemment du gouvernement appuyé par les États-Unis, la torture est pratique courante. On vient d'avoir des déclarations de l'ex-président Yahweh, qui dit qu'on torture plus aujourd'hui, c'est pourtant un homme des Américains, on torture plus aujourd'hui en Irak, dit-il officiellement à la presse anglaise, on torture plus aujourd'hui en Irak que du temps de Saddam Hussein. Bon. Donc on est dans un système où non seulement Guantanamo et Alberto González est le théoricien de Guantanamo, sur la base que Guantanamo n'est pas en territoire américain, donc les lois américaines ne peuvent pas s'appliquer, mais que dès qu'on découvre qu'un détenu de Guantanamo est relativement important dans la hiérarchie du terrorisme, d'une organisation, eh bien, à ce moment-là, on le délocalise, on l'envoie vers un site noir ou un pays où il va être, évidemment, beaucoup plus torturé qu'il n'est à Guantanamo. Je dis que lorsque on atteint ces dimensions, là, il y a une perversion profonde de ce que peut être, disons, les limites de l'usage de la force, de l'usage de l'autorité par une démocratie. C'est vrai qu'une démocratie et l'État en démocratie a le monopole de l'usage de la force et que la répression est légitime dans le cadre de la loi, bien entendu. Mais je dis que, et c'est un peu les arguments maintenant de ceux qui s'opposent, notamment de McCain, de ceux qui s'opposent à Cheney, qui s'opposent d'ailleurs à partir de positions de droite traditionnelles, car
il est républicain,
il est d'ailleurs partisan pour de maintenir disons l'occupation de l'Irak, donc c'est un homme de droite, mais
ancien détenu au Vietnam où il a été lui-même torturé,
voilà, mais comme il a cette expérience, eh bien il est aujourd'hui à cheval sur un principe qui évidemment rassemble l'ensemble des démocrates, c'est que la force d'une démocratie, c'est qu'elle doit pouvoir s'interdire de pratiquer certains usages de la force. Et notamment, une démocratie doit s'interdire, bien entendu, la torture. Si la démocratie ne le fait pas, quelle différence de fond y aura-t-il alors avec un régime réellement répressif ? La démocratie ne peut pas se définir comme étant un régime répressif. Il faut trouver d'autres systèmes. Certains disent, oui, mais la torture est efficace, disent ceux qui répriment, notamment les services de police ou de contre-espionnage ou d'intelligence. Elle est peut-être efficace, mais c'est même pas une question que la démocratie doit se poser, n'est-ce pas ? Sa force, je répète, réside dans sa capacité à s'interdire l'usage de ce type, disons, de répression qui dégrade non seulement celui qui la pratique, mais qui dégrade l'institution démocratique en tant que telle.
Voilà, vous trouverez tout ça dans le numéro du Monde Diplomatique à paraître. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, j'y suis. Merci à l'équipe du Duplo, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Maurice Lemoine et Serge Alimi. Technique aujourd'hui, Lévin Caron, Christophe Papon et Éric Morin. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assiste de Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.